Il est 17h sur France Culture, bienvenue et merci de nous rejoindre, c'est En français dans le texte. Bonjour à tous. Beaumarchais, Victor Hugo, Marguerite Yourcenar ou encore Molière, ce sont des classiques que nous vous proposons d'écouter, lus dans la voix de grands comédiens, des classiques de la littérature française, des grands textes d'histoire ou de philosophie au programme du baccalauréat, analysés ensuite avec le concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Enfance de Nathalie Sarraute, lu par Charlotte Rampling. Autour de 17h30, En français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki, avec l'écrivain Gustave Flaubert aujourd'hui et notre invité, le lexicologue Jean Pruvot, auteur d'une story de la langue française. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien pour la minute de fin, à écouter sur France Culture bien sûr ou en nous rejoignant si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
Nathalie Sarraute a 83 ans quand elle publie « Enfance ». Elle a déjà derrière elle une œuvre romanesque et théâtrale importante. Au tournant du XXe siècle, elle a contribué à théoriser le nouveau roman, ce mouvement littéraire qui déconstruit et renouvelle les conventions du genre romanesque. En 1956, dans un essai célèbre, elle a fait entrer la littérature dans l'ère du soupçon. Le personnage, l'intrigue, la narration, tout ce qui constituait le roman ne sont plus dignes de foi. On ment quand on a réduit un être à un caractère, quand on l'enferme dans un récit linéaire. L'écriture doit donc capter les manifestations plurielles de la subjectivité. Cette règle nouvelle, elle se l'applique depuis sa première publication en 1939, depuis ces fameux tropismes qui définissent ce vers quoi son œuvre doit tendre, raconter ces mouvements indéfinissables, racontera-t-elle plus tard, qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience et qui constituent la source secrète de notre existence. Une exigence de vérité que l'on retrouve dans le livre dont vous allez entendre des extraits, « Enfance » fait le récit de ce premier âge de la vie. Et Nathalie Sarraute fait peser sur ce projet autobiographique le même soupçon qu'elle a fait peser sur le roman. Comment peut-on écrire sur soi sans se trahir? En refusant, comme elle l'a toujours fait, de produire un texte qui pourrait ressembler à celui de ses prédécesseurs, en acceptant le caractère lacunaire et fragmentaire de la mémoire, en inventant une forme nouvelle, à l'opposé des confessions de Rousseau, modèle du genre pourtant, Nathalie Sarraute refuse de s'immerger dans son moi et de s'y complaire. Pour y parvenir, elle fait le choix de se dédoubler. Elle n'écrit pas un récit de soi sous la forme d'un monologue intérieur, mais sous la forme d'un dialogue à deux voix. Un dialogue entre soi et un double de soi, plus avisé, plus critique, quitte à déstabiliser d'entrée de jeu le lecteur. Elle aussi se dédouble pour vous lire cette ouverture de « Enfance » de Nathalie Sarraute. C'est la comédienne britannique Charlotte Rampling, elle-même auteure d'un récit de jeunesse chez Grasset, paru il y a peu, intitulé « Qui je suis ?».
Alors, tu vas vraiment faire ça? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être... Est-ce que ce ne serait pas... On ne s'en rend parfois compte, c'est peut-être que tes forces déclinent. Non, je crois pas. Du moins, je ne le sens pas. Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs, est-ce que ce ne serait pas... Oh, je t'en prie. Si, il faut se le demander. Est-ce que ça ne serait pas prendre ta retraite, te ranger, quitter ton élément, ou jusqu'ici tant bien que mal? Oui, comme tu dis, tant bien que mal. Peut-être, mais c'est le seul où tu aies jamais pu vivre, celui... Ah, à quoi bon? Je le connais. Est-ce vrai? Tu n'as vraiment pas oublié comme c'était là-bas? Comme là-bas, tout fluctue, se transforme, s'échappe. Tu avances à tâtons, toujours cherchant, te tendant. Vers quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien. Personne parle, ça se dérobe. Tu la grippes comme tu peux. Tu le pousses. Où? N'importe où. Pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvienne peut-être à vivre. Tiens, rien que d'y penser. Oui, ça te rend grandiloquent, je le dirais même outrecuidant. Je me demande si ce n'est pas toujours cette même crainte. Souviens-toi comme elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se propose. Ce qui nous est resté des anciens tentatifs nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les limbes. Mais justement, ce que je crains, cette fois, c'est que ça ne tremble pas. Pas assez. Que ce soit fixé une fois pour toutes du tout cuit, donné d'avance. Rassure-toi, ce qui est d'être donné, c'est encore tout vacillant. Aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché. Il me semble que ça palpite faiblement, hors des mots, comme toujours, des petits bouts de quelque chose d'encore vivant. Je voudrais, avant qu'il disparaisse, laisse-moi.
Laisse-moi. On retrouve la comédienne Charlotte Rampling dans quelques minutes pourtant pour une deuxième lecture, pour un deuxième extrait de Enfance de Nathalie Sarraute, réalisé juste pour vous, auditeurs de En français dans le texte, l'émission de France Culture qui fait la part belle aux classiques de la littérature. Commençons maintenant à analyser ce texte avec le concours de l'Éducation nationale et plus précisément de Anne de Laplace. En guise d'ouverture, cet étonnant dialogue. Nathalie Sarraute y discute avec elle-même de la nécessité, voire de la légitimité de son projet autobiographique. Projet qualifié et assumé d'emblée. Tu veux évoquer tes souvenirs d'enfance? Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Elle semble s'amuser de son propre désir de revenir soudain sur sa vie passée. Alors que depuis 50 ans, Nathalie Sarraute remet en cause la possibilité de connaître autrui et de se connaître soi-même. Sa deuxième voix lui recommande tout de suite la méfiance. Il ne faudrait pas se laisser aller à la facilité du récit d'enfance, au « tout cuit » comme elle l'écrit, c'est-à-dire à ces passages convenus, attendus, presque obligés de l'autobiographie. La voix l'invite au contraire à recueillir tout ce qui se joue par-delà les apparences, tout ce qui vacille encore instinctivement et qui n'a pas encore été verbalisé. Nathalie Sarraute évoque ces petits bouts de quelque chose d'encore vivant, ces moments de vie qui se lisent moins dans les paroles que dans les silences, dans les points de suspension qui habitent ce texte que nous venons de lire, comme ils habitent toute son œuvre. Des points de suspension qui matérialisent dans la page les non-dits de l'existence, tout ce qui palpite faiblement, hors des mots. Voilà justement le défi. Il faut saisir la vibration des souvenirs sans la figer, écrire l'enfance sans la fixer. Il faut se méfier du langage, les mots sont parfois trompeurs. Nathalie Sarraute en a fait la mère expérience. Elle la relate justement dans « Enfance ». Dans le deuxième passage que vous allez entendre, l'auteur a 8 ans. Née Natalia Tcherniak en 1900 en Russie, ses parents se sont séparés 6 ans plus tôt. Ballottée entre la France, où vit son père, et la Russie, où est restée sa mère. Cette dernière décide alors de l'envoyer à Paris pour un séjour dont l'enfant ne sait pas encore qu'il sera définitif. La petite fille est accueillie dans le foyer paternel, où elle doit composer avec Vera, sa toute jeune belle-mère. Natalia vit très mal ce déracinement, à la fois géographique et affectif. On écoute à nouveau Charlotte Rampling lire Nathalie Sarraute.
J'occupe ici, comme à Pétersbourg, une des chambres sur la rue. Il n'y a plus dehors de lumière argentée, ni quelque part plus loin de vastes espaces de glace, de neige scintillante, mais une lumière un peu sale, enfermée entre des rangées de petites maisons aux façades mornes. Morte, devrais-tu dire, sans avoir peur d'exagérer. Oui, sans vie. Il est curieux que ces mêmes maisons, quand j'habitais rue Flatters, m'étaient parues vivantes. Je me sentais protégée, enveloppée doucement dans leur grisaille jaunâtre. Et elles conduisaient aux amusements, à l'insouciance des jardins du Luxembourg, où l'air était lumineux, vibrant. Ici, les petites rues qu'on passait menaient au parc Montsouris. Son seul nom me semblait laid. La tristesse imbibait ces vastes pelouses encerclées de petits arceaux. Elles étaient comme plaquées là pour rappeler de vraies prairies et vous en donner une nostalgie par moments déchirante. Tout m'accordera que le mot n'est pas trop fort. C'est là que j'allais faire semblant de jouer, auprès de Vera, ou Pâté, ou Cerceau, ou en courant sur le gravier des allées bordées d'arceaux. Même les chevaux de bois ici ne me tentaient pas. Mes soirées, quand j'étais dans mon lit, étaient consacrées à maman, à pleurer en sortant de sous mon oreiller sa photo, où elle était assise auprès de Colia, à l'embrasser et à lui dire que j'en pouvais plus d'être loin d'elle, qu'elle vienne me chercher. Il avait été entendu entre maman et moi que si j'étais heureuse, je lui écrirais « Ici, je suis très heureuse », en soulignant « très ». Et seulement « je suis heureuse » si je ne l'étais pas. C'est ce qu'un jour je m'étais décidée à lui écrire à la fin d'une lettre. Je n'avais plus la force d'attendre encore plusieurs mois, jusqu'en septembre, qu'elle vienne me reprendre. Je lui ai donc écrit « Je suis heureuse ici ». Quelque temps après, mon père m'appelle. Je le voyais très peu. Il partait le matin vers 7 heures, quand je dormais, et rentre le soir très fatigué, préoccupé. Le repas s'écoulait souvent en silence. Vera parlait très peu. Les mots qu'elle proférait étaient toujours brefs. Les voyelles comme écrasées entre les consonnes, comme pour que chaque mot prenne moins de place. Même mon nom, elle le prononçait en supprimant presque les A, ce qui devenait un son, ou plutôt un bruit étrange. N-T-Cha. Après le dîner, mon père, je le sentais, était content que j'aille me coucher. Et moi-même, je préférais aller dans ma chambre. Tu ne faisais pas qui pleurait. Non, je devais lire, comme toujours. Je me souviens d'un livre de Mayne Reid que mon père m'avait donné. Il avait aimé quand il était petit. Moi, il ne m'amusait pas beaucoup. Peut-être étais-je trop jeune, 8 ans et demi. Je m'évadais de longues descriptions de prairies vers les tirets libérateurs, ouvrant sur les dialogues. Donc, quelques jours après mon envoi de cette lettre à maman, mon père me retient après le dîner et m'emmène dans son bureau, qu'une porte vitrée sépare de la salle à manger. Il me dit « Tu as écrit à ta mère que tu étais malheureuse ici. » Je suis stupéfaite. « Comment le sais-tu ? » ?»« Eh bien, j'ai reçu une lettre de ta mère. » Elle me fait des reproches, elle me dit qu'on ne s'occupe pas bien de toi, que tu te plains. Je suis atterrée, accablée sous le coup d'une pareille trahison. Je n'ai donc plus personne au monde à qui me plaindre. Maman ne songe même pas à venir me délivrer. Ce qu'elle veut, c'est que je reste ici, en me sentant moins malheureuse. Jamais plus je ne pourrai me confier à personne. Je devais montrer un si total, si profond désespoir que tout à coup mon père, abandonnant cette réserve, cette distance qu'il montre toujours ici à mon égard, me serre dans ses bras plus fort qu'il ne m'a jamais serré, même autrefois. Il sort son mouchoir, il essuie avec une maladresse tendre, comme tremblante, mes larmes. Et il me semble voir des larmes dans ses yeux. Il me dit juste « Va te coucher, ne t'en fais pas ». Une expression qu'il a souvent employée en me parlant. Rien dans la vie n'en vaut la peine. Tu verras. Dans la vie, tôt ou tard, tout s'arrange. À ce moment-là, et pour toujours, envers et contre toutes les apparences, un lien invisible que rien n'a pu détruire nous a attachés l'un à l'autre. Je ne sais pas exactement ce que mon père sentait, mais moi, à cet âge-là, je n'avais pas 9 ans, je suis sûre que tout ce qui, petit à petit, s'est révélé à moi. Au cours des années qui ont suivi, je l'ai perçu d'un coup, en bloc. Tous mes rapports avec mon père, avec ma mère, avec Vera, leurs rapports entre eux, n'ont été que le déroulement de ce qui s'était enroulé là.
Lire et comprendre Enfance de Nathalie Sarraute au programme aujourd'hui de En français dans le texte. Ce passage exprime la prise de conscience par l'enfant de l'abandon maternel. Il n'y aura pas de retour. Il a toutes les apparences d'un chagrin d'enfance, les larmes, l'arrachement à la Russie, la séparation d'avec la mère. Mais il raconte aussi, et surtout, l'invisible, les mots qui trahissent, les silences qui sauvent, et l'extraordinaire lucidité des enfants. Nathalie Sarraute rejette tout pathos et rend justice à la petite fille qu'elle a été. Celle qui, à 8 ans, en bloc, a compris la vérité des êtres. L'enfant est traversé par les mots des adultes qu'elle va devoir apprendre à déchiffrer. Les mots de la belle-mère sont coupants, ils la blessent. Dans la bouche de Vera, le prénom de Natacha se trouve réduit à quelques consonnes abruptes qui, en supprimant les voyelles, gomment symboliquement une part de son identité. Les mots de la mère sont traîtres. Ils auraient dû la sauver et ils la perdent. En écrivant comme convenu dans sa lettre « Je suis heureuse ici », Natalia lance un appel au secours auquel seule sa mère peut répondre. Elles ont scellé ce pacte autour de cette antiphrase. Mais ce langage codé, complice, devient coupable, car il révèle la menace que les mots font peser sur quiconque pourrait les croire fiables. Informée de la détresse de sa fille, la mère répond par une lettre au père où elle lui indique qu'elle ne viendra pas la chercher, ne lui offrant aucun secours, rompant surtout le lien de confiance épistolaire. Plus douloureuse encore que l'abandon qui se dessine, c'est cette trahison qui terrasse l'enfant. « Jamais, écrit Nathalie Sarraute, jamais plus je ne pourrai me confier à elle, jamais plus je ne pourrai me confier à personne. » La double négation, mise en valeur en début de phrase par l'anaphore « jamais plus », martèle ce sentiment de perte irrémédiable. Ces mots d'enfant ont perdu leur unique refuge. Enfin, il y a les mots du père qui sont hésitants, maladroits, comme le suggère la formule dérisoire « ne t'en fais pas ». Mais ils sont enrobés de gestes tendres et surtout traversés par les silences, par ces points de suspension qui trouent la phrase. C'est précisément dans ces interstices qu'une forme de consolation, de confiance mutuelle, va se tisser entre le père et la fille. Et c'est précisément dans ces silences que plus tard, dans son œuvre, la romancière situera la vérité de l'écriture. Tout l'univers de Nathalie Sarraute semble trouver sa source dans cet épisode qui se présente comme une révélation. Les adultes, comme les mots, peuvent mentir, trahir, et la vérité des êtres se situe hors du langage. Il faut apprendre à écouter les silences et traduire ce qui se trouve entre les lignes. Il faut recueillir ses impressions, ces fameux tropismes qui ont fait d'elle une romancière si singulière et dont elle situe la découverte dans ce terreau de l'enfance. Quelques pages plus loin, le douloureux apprentissage de la vie se poursuit pour Natalia. La petite fille doit désormais accepter l'arrivée dans le foyer paternel d'un bébé, une demi-sœur qui risque de lui prendre sa place. À vous, Charlotte Rampling.
Quelques jours avant que Vera revienne avec le bébé, je suis surprise en voyant que les objets qui m'appartiennent ne sont plus dans ma chambre, une assez vaste chambre donnant sur la rue. La grande et grosse femme qui s'occupe de tout dans la maison m'apprend que j'habiterai dorénavant dans la petite chambre qui donne sur la cour, toute près de la cuisine. Qui va habiter dans ma chambre? Ta petite sœur avec sa bonne. Quelle bonne? Elle va arriver. Si quelqu'un avait pensé à m'expliquer qu'il n'était pas possible de loger un bébé et une grande personne dans ma nouvelle chambre, qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, je crois que je l'aurais compris. Mais enlever ainsi, brutalement, de ce qui petit à petit est devenu pour moi ma chambre, et jeter dans ce qui m'apparaissait comme un sinistre réduit, jusqu'ici inhabité, j'ai eu un sentiment qui est facile d'imaginer de passe-droit, de préférence injuste. C'est alors que la brave femme qui achevait mon déménagement s'est arrêtée devant moi. J'étais assise sur mon lit dans ma nouvelle chambre. Elle m'a regardée d'un air de grande pitié et elle a dit « Quel malheur, quand même, de ne pas avoir de mère !» Quel malheur ! Le mot frappe. C'est bien le cas de le dire, de plein fouet. Des lanières qui s'enroulent autour de moi m'en serrent. Alors c'est ça. Cette chose terrible, la plus terrible qui soit, qui se révélait au dehors par des visages bouffis de larmes, des voiles noires, des gémissements de désespoir, le malheur qui ne m'avait jamais approché, jamais effleuré, s'est abattu sur moi. Cette femme le voit. Je suis dedans, dans le malheur, comme tous ceux qui n'ont pas de mère. Je n'en ai donc pas. C'est évident. Je n'ai pas de mère. Mais comment est-ce possible? Comment ça a-t-il pu m'arriver à moi? Ce qui avait fait couler mes larmes que maman effaçait d'un geste calme en disant « Il ne faut pas ». Aurait-elle pu le dire si ça avait été le malheur? Je sors d'une cassette en bois peint des lettres que maman m'envoie. Elles sont parsemées de mots tendres. Elles y évoquent notre amour, notre séparation. Il est évident que nous ne sommes pas séparés pour de bon, pas pour toujours. Et c'est ça, un malheur? Mes parents qui savent mieux seraient stupéfaits s'ils entendaient ce mot. Papa serait agacé, fâché. Il déteste ces grands mots. Et maman dirait, oui, un malheur quand on s'aime, comme nous nous aimons, mais pas un vrai malheur. Notre triste séparation, comme elle l'appelle, ne durera pas. Un malheur, tout ça, non, c'est impossible. Mais pourtant, cette femme, si ferme, si solide, le voit. Elle voit le malheur sur moi, comme elle voit mes deux yeux sur ma figure. Personne d'autre ici ne le sait. Ils ont tous autre chose à faire. Mais elle qui m'observe, elle l'a reconnu. C'est bien lui, le malheur qui s'abat sur les enfants dans les livres, dans Sans Famille, dans David Copperfield. Ce même malheur a fondu sur moi. Il m'en serre, il me tient. Je reste quelque temps sans bouger, recroquevillé au bord de mon lit. Et puis tout en moi se révulse, se redresse. De toutes mes forces, je repousse ça, je le déchire. J'arrache ce carcan, cette carapace. Je ne resterai pas dans ça, où cette femme m'a enfermé. Elle ne sait rien. Elle ne peut pas comprendre. C'était la première fois que tu avais été prise ainsi, dans un mot. Je ne me souviens pas que cela me soit arrivé avant. Mais combien de fois depuis ne me suis-je pas évadée, terrifiée, hors des mots qui s'abattent sur vous et vous enferment? Même le mot « bonheur », chaque fois qu'il était tout près, si près, prêt à se poser, tu cherchais à l'écarter. Non, pas ça, pas un de ces mots. Ils me font peur. Je préfère me passer d'eux. Qu'ils ne s'approchent pas, qu'ils ne touchent à rien. Rien, ici, chez moi, n'est pour eux.
Vous écoutez France Culture. Après ce troisième extrait, lu par Charlotte Rampling pour En français dans le texte, on continue l'analyse de Enfance de Nathalie Sarraute. Car oui, rebelote, à nouveau, la petite fille doit se débattre avec les mots des autres, les grands mots de la femme de chambre qui a pitié d'elle, les mots tendres de sa mère qui la berce d'illusions, et les mots si fragiles de son père qui lui échappent. Le langage est décidément, comme elle l'écrira, l'arme quotidienne, insidieuse et efficace d'innombrables petits crimes. La métaphore est saisissante, les mots peuvent tuer, c'est à cette violence que l'enfant tente d'échapper dans cet épisode. Observée du point de vue de la femme de chambre, la fillette ne peut que susciter la compassion. Délaissée par sa mère, malmenée par sa belle-mère, elle a été délogée de sa chambre au profit de sa demi-sœur. Néanmoins, le coup le plus violent ne vient pas de cette injustice, ne vient pas des faits, mais des mots prononcés par la femme de chambre. Quel malheur, quand même, de ne pas avoir de mère. Née d'une forme d'empathie spontanée et sincère, ces paroles vont involontairement, mais définitivement, blesser l'enfant. Quel malheur! Le mot frappe, c'est bien le cas de le dire, de plein fouet. Des lanières qui s'enroulent autour de moi m'en serrent, écrit Nathalie Sarraute. La métaphore filée du fouet est explicite, elle aussi. Ce mot malheur déclenche à lui seul l'un de ces fameux tropismes sarrautiens, ces réactions spontanées, sensibles, instinctives que peuvent provoquer les mots d'autrui. Le malheur, c'est dans nos imaginaires, des visages bouffis de larmes, des voiles noires, des gémissements de désespoir, écrit-elle. À travers l'énumération des signes auxquels le mot « malheur » renvoie communément, l'enfant essaie de reconnaître ce qui, en elle, pourrait y correspondre. Et pourtant, ça ne colle pas. La fillette ne se reconnaît pas dans ces mots. Elle a une mère, cette dernière existe vraiment, elle est là-bas, à Pétersbourg. D'ailleurs, elle a encore des liens avec cette mère, comme en témoignent ses lettres parsemées de mots tendres, que l'enfant conserve précieusement dans une cassette. Elle se raccroche à ces signes tangibles d'un lien maternel auquel elle a besoin de croire. Alors qu'à travers ces mots, la femme de chambre suggère que sa mère n'en est plus une, du fait de son absence. La voilà déclassée, effacée, et Natalia orpheline, sans autre forme de procès. La voilà, héroïne du roman du 19e. Elle, qui m'observe, elle l'a reconnue. C'est bien lui, le malheur qui s'abat sur les enfants dans les livres, dans Sans famille, dans David Copperfield. Vu de l'extérieur, Natalia pourrait être considérée comme la sœur du Rémi d'Hector Malo ou celle du héros de Charles Dickens. On l'enferme dans un personnage. On la réduit à un être de papier. Tout comme Nathalie Sarraute, devenue figure de proue du nouveau roman, réglera son compte au personnage romanesque, l'enfant qu'elle est ici refuse de se laisser piéger par le personnage auquel on veut la réduire. Elle ne sera pas cette fillette malheureuse. Tout en moi se révulse, se redresse. De toutes mes forces, je repousse ça, je le déchire, j'arrache ce carcan, cette carapace. Je ne resterai pas dans ça où cette femme m'a enfermée. Le « ça », pronom démonstratif, péjoratif, lapidaire, répété à deux reprises, concentre en lui toute la violence de ce que l'enfant refuse. De tout son corps, l'enfant expulse hors d'elle le rôle pathétique qu'on a voulu lui assigner. Elle dit non aussi au langage. Non, pas un de ces mots, ils me font peur, je préfère me passer d'eux. Pour conclure, vous l'avez entendu, fidèle à la voix qui, en elle, la mettait en garde au seuil de son œuvre, Nathalie Sarraute s'est efforcée tout au long de cet étonnant parcours autobiographique de raconter ses souvenirs sans pour autant les trahir. À travers ce dialogue entre elle-même et son double, l'écrivaine raconte la difficulté de grandir, de se construire hors des mots des adultes. Ces mots, qui sous leur banalité apparente vous assignent à une identité trompeuse, vous enferment dans une image déformée de vous-même. Par l'écriture des tropismes, par le rejet des clichés, des grands mots, Sarraute propose une langue nouvelle, souterraine, qui la sauve du malheur et qui, ce faisant, nous sauve aussi. Car nous avons tous été de près ou de loin cet enfant qui se débat avec les mots des autres, avec les mots des adultes. Je reconnais volontiers le caractère autobiographique de mon œuvre, écrit-elle dans la Quinzaine littéraire en 1978, à condition qu'on veuille bien noter à autobiographique son contenu anecdotique, à condition aussi que vous me permettiez d'ajouter que nous nous ressemblons tous comme deux gouttes d'eau. C'était Enfance de Nathalie Sarraute, lecture signée Charlotte Rampling. Merci à Anne de Laplace pour son analyse précieuse. Un bonus grammaire est à retrouver sur le site de En français dans le texte sur franceculture.fr. Tout de suite, c'est l'heure de la dictée, à suivre à l'antenne ou sur le Facebook de France Culture, en vidéo, donc sur les réseaux.
Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas, c'est décidé d'ici. Demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé, d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas.
C'était Vianney, N'attendons pas, extrait de son troisième album éponyme qui sort à la fin du mois.
France Culture. En français, dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Les Chadoks malades étaient recyclés d'art par ordinateur pour se faire réinjecter les bonnes manières de la grammaire. Premièrement, éprimons. Tout mot Chadok qui ne veut rien dire ne peut pas dire deux fois de suite la même chose. Secondo, et en plus, il est interdit de déposer des points d'interrogation, d'affirmation, d'appréciation, d'exécution ou de n'importe quoi devant toute proposition constituée par une passoire après 10 heures du matin. Tout génitif, qualificatif, cumulatif ou déponent, ayant eu des rapports avec son complément, prend un point virgule au pluriel, sauf si c'est un hibou, un genou, un joujou ou un pou.
Le phrasé unique de Claude Pieplu pour nous raconter, nous aider à être au fait de la grammaire Shadok. Bonjour Rachid Santoki.
Bonjour Olivia.
Il est l'heure de votre dictée. La dictée, un exercice pour tous, comme un jeu, un défi qu'on se lance à soi-même. Renouer avec les mots, l'orthographe, sans contrainte ni regret. La correction sera, comme chaque semaine, en ligne juste après, ainsi que la copie de notre invité. À la dictée, aujourd'hui, le lexicologue Jean Pruvot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous êtes l'auteur de la story de la langue française, si j'oublie pas le mot essentiel, ce que le français doit à l'anglais et vice versa, un ouvrage qui vient de paraître chez Talendier. C'est une histoire des apports, des emprunts, des transferts d'une langue à l'autre, ou comment l'anglais et le français se sont nourris jusqu'à l'avènement du globish. Se challenger par exemple, on a le droit de le dire, ça c'est un mot qui est autorisé, se challenger.
Bah, c'est un mot qui est français au départ, qui passe en Angleterre et qui nous revient. Alors bon, on peut de temps en temps être un peu inquiet qu'il y ait trop de mots anglais déformés, mais après tout, la prononciation challenge, c'était celle du Moyen-Âge.
Ah, et donc quand on sait que ça vient de chez nous, avant d'être parti là-bas pour revenir ici, cet effet ping-pong, ou boomerang plutôt, on se sent un peu plus autorisé quand même à utiliser certains mots.
Oui, sans abuser. Hein,
sans abuser.
Quand même, j'essaie de mettre en avant parfois une bonne langue quand j'entends la Bridal Fashion Week. Bon, je préférais qu'on parle de
la semaine de la
semaine,
mode.
Voilà, de la mariée et de la mode. Donc, il y a des excès qui sont à démontrer, mais il y a aussi un transvasement énorme de plus d'un millier de mots en Angleterre, derrière Guillaume le Conquérant. Et puis finalement, aujourd'hui, si on prend 60 000 mots, il y a 65% de mots anglais qui sont français, et parfois même des mots du Moyen-Âge qu'on a oubliés. Donc c'est très intéressant de raconter ça, le fait qu'après avoir donné énormément de mots français aux Anglais, on en a pris aussi. Déformé parfois, la riding coat qui devient la redingote, ça me plaît bien, le paquet de bottes qui devient le paquebot, ça me plaît aussi. Bon, après, d'autres mots comme la conf call, on peut peut-être trouver autre chose.
Oui, là les mots de la novlangue managériale sont moins exotiques aujourd'hui,
en tout cas,
ils nous intriguent beaucoup moins. L'anglais, un tiers au moins de son vocabulaire serait d'origine française, c'est plus qu'un petit emprunt. Quelles sont les grandes années de ce trafic de mots? Vous l'évoquiez dans le sillage de Guillaume le Conquérant, beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là. Des histoires d'influence, des histoires de mots, c'est dans ce livre, Jean Pruvot, que vous éditez chez Talendier, la story de la langue française. Mais pour l'heure, il va falloir travailler sur les mots d'un autre, ceux de Flaubert. Aujourd'hui, quelle dictée, quel texte, quel extrait avez-vous choisi, Rachid Santaki?
J'ai choisi un extrait de Madame Bovary, Gustave Flaubert. J'étais tenté de prendre un extrait du roman de Victor Hugo, 93, mais Jean s'est déjà penché sur cette dictée.
Ah, vous l'avez déjà fait bosser?
Exactement.
Il vous connaît et vous le connaissez.
En un lieu formidable, c'était à Saint-Denis, au pied de la basilique et au pied de la mairie où ma grand-mère avait travaillé. Donc, il y avait, je m'en souviens, 982 personnes qui étaient là sur la place du marché à faire cette dictée. C'était très émouvant.
De tous les âges?
Oui.
Alors, comment ça va se passer cette dictée, Rachid?
Donc, je vais effectuer trois lectures. Une première lecture pour vous familiariser avec le texte. Ensuite, deuxième lecture, vous pencherez sur votre copie.
Pour travailler le poignet.
Exactement, le poignet, se poser des questions également sur certains mots. Et enfin, une troisième lecture avec Olivia pour revenir sur les éventuelles difficultés de ce texte.
Voilà pour les règles, le rappel des règles, Maître Santaki. On va passer tout de suite à la dictée si vous êtes prêt. Monsieur Pruvot, première lecture.
Première lecture. C'est un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres et Emma poursuivait la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée dans une haie d'épines. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer, car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe. et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui, sur l'escabeau, dans la cheminée, quand elle faisait brûler le bout d'un bâton à la grande flamme des joncs marins qui pétillaient. Elle se rappela des soirs d'été tout pleins de soleil. Point final.
Merci pour cette première lecture. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que la feuille est sortie? Est-ce que le stylo est en main? Est-ce que le poignet est délié?
Ah, ça, peut-être pas assez.
Bon, la concentration est intense. Eh bien, on peut commencer.
Très belle et bonne dictée, cher Jean, et à toutes nos auditrices et auditeurs. Elle resta quelques minutes. Elle resta quelques minutes à tenir. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts. Entre ses doigts, ce gros papier. Point. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. Point. Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres, virgule. Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres, virgule. Et Emma, les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres, virgule. Et Emma poursuivait. Et Emma poursuivait la pensée douce. Et Emma poursuivait la pensée douce qui caquetait tout au travers, comme une poule, à demi cachée, au travers comme une poule à demi cachée, dans une haie d'épines. Point. Dans une haie d'épines. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. On avait séché l'écriture. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer, virgule. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer, virgule. Car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe, virgule. Car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe, virgule. Et elle crut presque apercevoir son père, se courbant et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre, et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Point. Et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Point.
C'est pas tout à fait fini, mais vous êtes très silencieux. Tout va bien ?
Le rythme ? Oui, je crois.
Comme il y avait longtemps.
Si ça se trouve, c'est Truffaut de faute.
Mais... Oui.
Comme il y avait longtemps. Qu'elle n'était plus auprès de lui, virgule. Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui, virgule. Sur l'escabeau, virgule. Auprès de lui, virgule. Sur l'escabeau, virgule. Dans la cheminée, virgule. Dans la cheminée, virgule. Quand elle faisait brûler. Le bout d'un bâton. Quand elle faisait brûler le bout d'un bâton. À la grande flamme. À la grande flamme des joncs marins qui pétillaient, point d'exclamation. Je répète dans la cheminée, virgule, quand elle faisait brûler le bout d'un bâton à la grande flamme des joncs marins qui pétillaient, point d'exclamation, suivi de point de suspension. Donc, point d'exclamation, une autre ponctuation, point de suspension. Elle se rappela des soirs d'été, tout plein de soleil, point final.
Jean Prouvot, niveau de difficulté pour vous de cette dictée ?
Peut-être paraître prétentieux, elle ne me paraît pas difficile, mais bon, peut-être que j'ai fait des fautes de salaire, mais non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de difficultés. En revanche, il y a des mots passionnants.
La langue de Flaubert, vous l'aimez ?
Oui, je l'aime beaucoup, parce que, bon, vous savez, c'était Madame Bovary, c'est moi, c'était le grand cri de Flaubert, et il se voulait donc le premier des réalistes, et ça a été un effort pour lui, hein. Il souhaitait véritablement quitter le romantisme pour devenir réaliste. Et il a donc décrit, et en décrivant et les sentiments, et le moindre détail, et d'ailleurs il y avait une formule qui me revient, j'étais prof de lettres, donc je m'en souviens un petit peu, qui était « le petit détail qui fait vrai ». Et c'est chez Flaubert qu'on a ça. Ce petit détail qu'il ajoute ici, les pincettes, la cendre. Et ce sont ces petits détails qui font vrai et qu'on ne trouvait pas forcément dans le romantisme où, au contraire, il y avait un élan. Il fallait avoir l'esprit dans la tempête et non finalement le moi profond. Donc j'aime beaucoup, comme j'aime le romantisme, hein, mais il y a une unité, il y a une cohérence chez Flaubert.
Alors, on va relire ce texte en tentant d'éclairer les mots, les questions qui pourraient se poser avec vous, Jean Prouvot. Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. Pas trop de difficultés sur cette première phrase. Doigt, D-O-I-G-T-S.
Oui, on retrouve racine, hein, digital. Mais doigt, D-O-I-G-T, c'est une difficulté, effectivement, pour les enfants, je le comprends.
En revanche, une fois qu'on le sait, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Bon. C'est toujours, du coup, agréable de l'apprendre. Les fautes d'orthographe. Tiens, comment on écrit orthographe ? Ça, c'est, alors, peut-être un des mots les plus difficiles.
On va tout de suite dédouaner les élèves qui auront fait une faute. Parce que quand on prend nos premiers dictionnaires, celui de Richelet, il l'écrivait sans H. Donc en 1680, le premier dictionnaire français-français, il n'y a pas d'H. Mais dès le deuxième, celui de Furetière en 1690, qui faisait partie de l'Académie, et dès le troisième avec l'Académie française en 1694, là il y a un H. Et c'est définitif. Mais une fois qu'on a retenu ortho, qui veut dire droit, qu'on va retrouver dans orthopédiste, on comprendra que c'est l'écriture normée, droite, la bonne. Bon.
Voilà, et Flaubert ne s'y s'est pas trompé, orthographe, O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-E, les fautes, F-A-U-T-E-S. Hein. Alors, si enlacer les unes aux autres, enlaçait peut-être une difficulté pour certains, deux S, c'est
oui, alors la possibilité de confondre avec le verbe se lasser et la deux S, ER, mais il faut toujours remonter à la racine. Se lasser, c'est on est là, L-A-S, donc on se lasse de quelque chose. Tandis que là, c'est comme les lacets de la chaussure, on en lasse, et donc on bloque ses lacets, donc C-A-I-U-N-T.
Voilà, E-N-L-A. C'est dit, A-I-E-N-T, les unes aux autres, virgule. Et Emma poursuivait, A-I-T, la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée. Caquetait, c'est donc le son, le gloussement de la poule.
Alors bon, c'est vraiment une, ce qu'on appelle une onomatopée, c'est-à-dire qu'on on reprend le son.
Des basses de la basse cour. Hein.
Bon, la poule... Caquette, c'est son rôle.
Et ça s'écrit C-A-Q-U-E-T-A-I-T en l'espèce, puisque nous en sommes là, la pensée douce qui caquetait tout au travers, comme une poule à demi cachée. Trait d'union ou pas entre demi et caché?
Alors moi j'en ai mis un, pense qu'il y en a un.
Et bien Flaubert n'en a pas mis un.
Je pense qu'il n'y a pas deux, bien sûr, puisque c'est devant. Mais le trait d'union, moi, il me semble, s'impose.
Pas aux yeux de Flaubert. Oui. Alors, Rachid Santaki ne fait pas la liaison, mais c'est dans une haie d'épines, D-A-N-S, une haie, haie, oui, H-A-I-E,
H-A-I-E.
Hein, ne pas oublier le H, d'épines, est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas?
Ah oui, à mon avis, il y en a plusieurs. Oui.
Donc vous mettez un S à épines. Oui, épines, oui. Pas de difficulté, E-P-I-N-E-S. On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer. Sécher, c'est avec le avec un S, hein, peut-être seul, la seule difficulté, S-E-C-H. Et l'écriture avec les cendres, avec un C. Car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe. Et elle crut presque apercevoir son père. Alors, cru, bah, ne pas confondre avec l'adjectif, cru,
oui, bien sûr,
avec la crudité, le cru. Donc, ici, c'est un verbe. Vous l'écrivez comment? Avec ou sans accent circonflexe?
Non, C-R-U-T, parce que c'est tout simplement l'imparfait. Hein. Et alors bon, le fameux piège habituel qu'on apprend tous à percevoir, bien sûr.
Un P ou deux P?
Eh ben, un P, oui.
Pourquoi? Il y a une raison?
Alors, parce que c'est la contraction de « a », plus loin, « percevoir ». Donc, ça explique qu'il n'y ait pas de « p ».
Voilà, apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes. Âtre, « a », accent circonflexe,
oui, voilà, voilà.
T-R-E. Est-ce qu'un « h » aurait pu le précéder? Est-ce que...
Oui, alors la change de ce mot veut qu'il n'ait pas d'homonyme. Il n'y a pas un autre mot « âtre ». C'est pas comme « o », « au », etc. Bon, ou « saut », « c-e-a-u », « s-o-t ». Donc, une fois qu'on l'a retenu, alors moi, je retiens toujours la flamme au-dessus avec le « a ».
Pincette, P-I-N-C-E-T-E-S. Comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui, A-U-P-R-E-S, de lui, sur l'escabeau. Escabeau, peut-être.
Alors, escabeau...
Vous l'avez écrit comment, Jean Prouvot, l'escabeau?
En ancien français, c'était l'escabelle. Et tous les mots qui sont passés... en L sont devenus presque toujours en O, le portel, le porto, on a eu beaucoup de choses comme ça.
Non, bon, l'escabeau, vous l'écrivez comment du
coup? A-B-E-A-U. Hein.
D'accord, bon, pas comme l'escargot en fait.
Non.
Mais on aurait pu aussi hésiter. Dans la cheminée, quand elle faisait brûler, faisait F-A-I-S-A-I-T, brûler, B-R-U, accent circonflexe, L-E-R, le bout d'un bâton à la grande flamme des joncs marins qui pétillaient. Est-ce qu'il y a un mot, un niveau
alors,
de difficulté?
Baston, c'est facile à retenir parce que il y a en vocabulaire familier la baston. On dit encore bastonner. Donc quand il y a un S qui disparaît, il y a un accent circonflexe qui s'installe le plus souvent à la place, donc avec un accent circonflexe.
Flamme, F-L-A-2-M-E, les joncs peut-être?
J-O-N-C-S.
C-S, avec ce C qui ne s'entend pas.
Moi j'avais une difficulté, j'ai hésité un peu, mais peu de temps, sur qui pétillait. Parce que, à la limite, la grande flamme peut aussi pétiller. Mais une flamme qui pétille, elle pétille moins quand même que ces joncs qui pétillent. Donc j'ai mis le pluriel.
A-I-U-N-T.
Oui.
Mm-hmm. P-E-T-I, deux L, A-I-U-N-T. Elle se rappela des soirs d'été tout plein de soleil. Plein vous m'intéresse ou pas?
Non, pour moi c'est un adverbe, donc j'en mets pas. Mais peut-être je me suis trompé.
Oui, vous vous êtes trompé sur la dernière ligne, sur la dernière phrase. Bon. Rachid Santaki, bravo, merci Flaubert.
Il y a une faute.
Il y en a deux. Le trait d'union que vous avez mis en trop entre demi et caché et maintenant ce plein.
Eh ben oui.
Ici, c'est un plein adjectif dans le sens de rempli.
On sait très bien l'édicter parce que comme ça, ouais. on note sur un petit carnet.
Exactement.
Et on fait plus l'erreur. J'aime bien le mot été aussi. Parce que ça vient de estuaire. L'estuaire était un lieu où bouillonnaient les choses. L'été, c'était torride en Italie, donc c'est de là qu'est venu le mot. Et l'estuaire, c'est un mot de la même famille, parce que ça bouillonnait aussi en entrant dans la mer et la mer qui remontait.
Mille bravos, deux fautes, deux toutes petites fautes pour vous, Jean Pruvot, et plein d'explications à la clé pour nous. Merci pour cette science des mots.
D'habitude, et de la langue. J'ai les dictionnaires pour m'aider.
Ouais.
Là, pas de dictionnaire. Hein.
Vous vous sentez désarmé, et pourtant, vous avez une mémoire d'enfer, il faut quand même le dire, parce que vous n'aviez pas le texte auparavant. Le français, l'orthographe plus précisément, il a souvent mauvaise réputation, cet exercice aussi de la dictée. Vous sauriez nous expliquer pourquoi ?
Ben, ça date non pas d'assez longtemps, d'il y a peu, puisque c'est surtout au 19e, au début du 19e, qu'avec les concours, alors qui étaient de la monarchie, mais qui étaient déjà les concours de l'État, qu'on va retrouver jusqu'au certificat d'études et jusqu'à nos concours aujourd'hui, un des critères, c'était l'orthographe. Mais si on prend le 16e ou le 17e siècle, l'orthographe, c'était l'affaire des imprimeurs, c'était pas vraiment celle des écrivains, et les écrivains faisaient bon nombre d'orthographes. On disait même, c'est Sainte-Beuve qui dit ça, que ces dames écrivaient un très bon français avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais ça n'avait pas d'importance. L'imprimeur était là. Et donc, on disait même qu'il avait un certain charme. Et quand on regarde les lettres de Louis XIV, par exemple, qui parlait un excellent français et qui écrivait vraiment avec beaucoup d'élégance, c'est truffé de fautes d'orthographe. Donc c'est arrivé avec le 19e, et puis après, le certificat d'études a joué son rôle. Puisque c'était l'épreuve clé, évidemment. Et puis après, bon, il faut bien l'avouer, la radio, la télévision, le téléphone, d'autres moyens, les SMS, ont fait que il y avait différents moyens de communication où l'orthographe était plus forcément visible. Elle est encore visible, hein. Moi, j'entends beaucoup à la radio, ça m'énerve toujours un peu, 200 euros, 300 euros, 500 euros, alors que c'est 500 euros, 300 euros. Donc l'orthographe, mine de rien, elle est aussi... on l'entend aussi. Oui.
Vous lui avez consacré une entrée dans votre dico des dictionnaires qui trône sur cette table, comme quoi. Vous n'êtes pas venu avec un dictionnaire, mais avec un dico des dictionnaires.
Plusieurs livres. Oui.
Chez Jean-Claude Lattès, paru précédemment. Qu'est-ce que vous en dites de l'orthographe ?
Ben, j'explique que lorsque j'ai été surveillant, ensuite PEG dans les lycées d'enseignement professionnel d'histoire-géographie, et quand je me suis retrouvé inspecteur d'éducation nationale, dans la circonscription que j'avais, j'ai décidé de lancer des concours d'orthographe avec tous les élèves et des concours de calcul. Ça a été un succès extraordinaire. Les élèves étaient heureux, ils avaient des récompenses, et c'était souvent des élèves finalement dont les parents ne parlaient pas le français, qui étaient le plus attentifs à l'orthographe et qui avaient tenté de faire le moins de fautes d'orthographe possible. Je pense que l'orthographe, c'est toute une vie. C'est au début un peu contraignant, mais en fait, c'est toute une vie, ça doit être joyeux. Si on fait des fautes au début, c'est pas grave. Vous voyez, aujourd'hui, j'en ai fait une. Voilà, dommage.
Deux, oui.
Vous êtes
dans le déni, surtout. Rachid Santaki, vous m'avez dit, Jean Prévost, il n'est pas lexicologue, il est...
Dicopathe.
Pourquoi ?
Dicopathe, ben c'est ce mot, j'ai découvert, il m'a invité à l'une de ces journées des dictionnaires où j'ai rencontré des gens incroyables qui écrivaient des dictionnaires sur des thématiques. Et j'ai effectivement découvert ce qu'étaient des dicopathes. Et Jean, effectivement, est un passionné. Mais un dicopathe, c'est vrai que ça peut faire peur. On peut se dire que c'est quelqu'un qui va être rigide sur la langue. Et quand on vous écoute, c'est plutôt une passion et une ouverture d'esprit.
Oui, donc, puis c'est... Enfin, je sais pas, j'essaye en tout cas. Mais par exemple, c'est un jeu. Je vois la story de la langue française. La story est en italique. Parce que la story, au départ, c'est un mot français qui s'écrivait S-T-O-R-I-E, qui venait de Estoria, Estori. C'est passé en anglais, ça nous revient avec un Y. Et donc, que les mots voyagent comme ça, ça a du charme. Et l'orthographe, et parfois le témoin d'une prononciation d'hier aussi. C'est pour ça que c'est compliqué.
1000 histoires, 1000 exemples à retrouver dans ce livre, La story de la langue française, ce que le français doit à l'anglais, et vice-versa. Votre dernier livre, Jean Prouvot, vient de paraître chez Talendier. Vous aimez les anagrammes ?
Oui.
Oui ? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on va tout de suite partir retrouver notre serial anagrammeur. Il y avait des instagrammeurs, maintenant on a des anagrammeurs. Et c'est Étienne Klein qui nous rejoint tout de suite sur France Culture. Et bonjour Étienne Klein.
Bonjour Olivia.
Une anagramme. Avec cet anagramme, on permute les lettres.
Voilà, et on espère tomber sur un autre mot qui a lui aussi du sens. Par exemple, parisien donne aspirine, étreint donne éternité, et gréviste aboli donne Olivia Gisbert.
Mais, de toute façon, on dit on espère, ceux qui font des anagrammes sont des têtus et ils arrivent généralement à leur fin. On va essayer aujourd'hui avec Marie Curie et Albert Einstein.
Oui, parce qu'en octobre 1911, eut lieu à l'hôtel Métropole de Bruxelles le premier congrès Solvay, réunissant 25 savants, des physiciens de tout premier plan. Il y avait Albert Einstein, Max Planck, Hendrik Lorentz, Jean Perrin, Rutherford, Paul Langevin, Henri Poincaré, 24 hommes qui avaient ou allaient recevoir le prix Nobel, et une femme, une seule, Marie Curie. Co-récipiendaire du prix Nobel de physique en 1903, elle apprendrait le mois suivant que le prix Nobel de chimie 1911 lui était aussi attribué. Et durant ce colloque, elle noua des liens d'amitié avec Einstein, qui admirait sa vivacité et son intelligence. Et de retour en France, elle fut violemment attaquée par une partie de la presse à cause de sa liaison présumée avec Paul Langevin, qui était marié et séparé de son épouse. Et le 23 novembre, après le colloque, Einstein écrivit à Marie Curie une lettre qui dit ceci: « Si cette racaille s'occupe encore de vous, cessez simplement de lire ces sottises, laissez-les aux vipères pour qui elles ont été fabriquées. » Alors d'aucuns ont cru bon d'imaginer que la relation entre la physicienne et le physicien fut non seulement amicale, mais aussi charnelle, je devrais dire physique. Rien pourtant ne le laisse penser, du moins si j'en crois l'anagramme d'Albert Einstein qui est « rien n'est établi ». Mais il est vrai que si l'on considère maintenant Marie Curie et Albert Einstein, on obtient cette troublante anagramme qui m'a été envoyée par Olivier Garcia, un jeune homme très doué. Ça donne en effet... C'est une rare amitié libertine. Mais qu'on se rassure, ils ne formaient de toute façon pas un couple, car comme le dit une autre anagramme, Marie Curie et Albert Einstein donnent, ils étaient célibataires intérieurement.
Que c'est beau, et je vous renvoie vers le très beau film aussi de Marjane Satrapi consacré à Marie Curie, cette femme radioactive. Merci beaucoup à vous Étienne Klein, chronique à réécouter sur francecultures.fr. C'était En français dans le texte. Merci beaucoup à Mydia Portis-Guérin qui a réalisé ce nouveau numéro de En français dans le texte avec Michael Simon et Jean-Frédéric à la technique, Jacques Azubert à la vidéo. Au bon soin de Sandrine Chaperon et Catherine Denet avec Zora Vigné. Toutes les informations sont à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Lundi, autour de la grande table, de Goncourt. Dès midi, retrouvez Mathias Hénard pour son nouveau roman Le banquet annuel des fossoyeurs. Et en deuxième partie, Nicolas Mathieu, avec Salomé Berliou, il a préfacé son livre « Nos campagnes suspendues ». D'ici là, très très belle fin de journée à tous sur France Culture.